Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le pouvoir d'un livre est un guide pratique consacré au parcours complet de l'auteur, depuis la définition du projet jusqu'à sa mise en visibilité. Publié par Meili Shen, auteur, conférencière et coach d'auteur, l'ouvrage se présente comme une formation structurée autour de 50 astuces pour écrire, publier et promouvoir un livre. Son angle vise moins la création littéraire au sens strict que la réalisation d'un livre utile, notamment pour des professionnels souhaitant transmettre une expertise, renforcer leur positionnement ou développer leur audience. Les sources disponibles indiquent que le livre aborde la recherche du sujet, la construction du plan, la rédaction, la révision, les choix entre édition traditionnelle et auto-édition, ainsi que la diffusion et la promotion. Il répond ainsi aux obstacles habituels des auteurs débutants, comme le doute sur la légitimité, la difficulté à commencer ou la crainte de ne pas trouver de lecteur. Son objectif central est de rendre le projet éditorial plus concret, en reliant la qualité du contenu à une stratégie de publication et de communication. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, faire du livre un instrument de transmission professionnelle. Le livre envisage la publication comme un outil de transmission, mais aussi comme un support de crédibilité professionnelle. Cette orientation est particulièrement cohérente avec le public auquel Meili Shen s'adresse, soit les entrepreneurs, coachs, formateurs, conférenciers et praticiens. Pour ces profils, le livre ne constitue pas seulement un produit culturel destiné à générer des ventes. Il peut organiser une méthode, clarifier une expérience, rendre une expertise accessible et fournir un point d'entrée durable vers une activité. Le raisonnement proposé repose sur une distinction utile entre posséder des connaissances et savoir les transformer en contenu lisible. Un auteur professionnel doit donc identifier ce qui mérite réellement d'être transmis, pour quel lecteur et sous quelle forme. Cette clarification réduit le risque d'un manuscrit qui accumule des informations sans promesses précises. Le livre semble aussi relier l'écriture à la construction d'une autorité, sans la présenter comme une garantie automatique de réputation. L'autorité dépend de la pertinence du sujet, de la cohérence du message et de la capacité à répondre à un besoin identifiable. Cette approche permet de comprendre pourquoi le choix du projet précède les questions techniques de publication. Le manuscrit devient plus solide lorsque son utilité, son destinataire et son apport distinctif sont définis dès le départ. Deuxièmement, passer d'une idée dispersée à une architecture de manuscrit. Une part essentielle du guide porte sur les opérations qui précèdent et accompagnent la rédaction, trouver une idée porteuse, mener des recherches, établir un plan et produire un premier jet. Ces étapes répondent à un problème fréquent chez les auteurs débutants, confondre abondance d'idées et structure de livres. Une expérience riche ou une expertise étendue ne suffit pas à créer un texte suivi. Il faut sélectionner un axe, ordonner les notions et construire une progression que le lecteur puisse suivre. La planification joue ici un rôle de réduction de la complexité. Elle découpe un objectif volumineux en séquences de travail et aide à vérifier que chaque chapitre contribue à la promesse générale. Les recherches ont également une fonction de fiabilité. Elles permettent de préciser les affirmations, de compléter les zones faibles et d'éviter que le livre repose uniquement sur des impressions personnelles. Le guide aborde aussi la rédaction comme une phase distincte du perfectionnement. Cette séparation est pragmatique, chercher à écrire parfaitement dès la première version peut bloquer l'avancement. Un brouillon sert d'abord à rendre visible la matière et la logique du texte. La révision peut ensuite améliorer la clarté, la fluidité, la précision du langage et la cohérence entre les sections. Cette méthode privilégie un processus reproductible plutôt qu'une inspiration supposée suffisante. Troisièmement, comparer édition traditionnelle et auto-édition sans négliger les responsabilités. Le livre traite des voies de publication, dont l'auto-édition et le recours à une maison d'édition. Cette comparaison est importante car ces options ne déplacent pas seulement le mode de diffusion, elles répartissent différemment le contrôle, les délais, les coûts et les responsabilités. L'auto-édition donne à l'auteur une maîtrise plus directe sur le texte, la couverture, le calendrier et la mise en vente. Elle peut donc convenir à une personne qui souhaite publier rapidement un contenu très lié à son activité ou conserver la direction complète de son projet. En contrepartie, elle impose de coordonner des tâches habituellement prises en charge par un éditeur, notamment la correction, la conception, le formatage, les métadonnées et la promotion. Le guide ne réduit pas la publication à la simple mise en ligne d'un fichier. Les informations disponibles mentionnent également la recherche d'un éditeur, la discussion contractuelle, les droits d'auteur, le tirage et les circuits de distribution. Cette amplitude rappelle que le choix éditorial doit être adapté au projet réel. Un auteur gagne à déterminer ses priorités avant de choisir une voie accompagnement, autonomie, vitesse, diffusion, budget ou exigence de qualité. Le point utile du livre réside dans cette vision opérationnelle de la publication. Un manuscrit achevé n'est pas encore un livre prêt à rencontrer son public. il doit passer par une chaîne de décision éditoriale concrète. Quatrièmement, traiter correction, conception et formatage comme des étapes éditoriales. Le guide accorde une place aux étapes de finalisation, telles que la relecture professionnelle, la correction, la conception et la mise en forme. Cette attention est décisive dans un contexte où la facilité technique de l'auto-édition peut inciter à publier trop tôt. La qualité perçue par le lecteur dépend non seulement du sujet, mais aussi de la lisibilité et de la fiabilité formelle de l'ouvrage. Des fautes répétées, une hiérarchie visuelle confuse ou une couverture peu adaptée peuvent affaiblir un contenu pourtant pertinent. La relecture extérieure possède alors une valeur spécifique. L'auteur connaît trop bien son propre texte pour repérer systématiquement les incohérences, répétitions ou passages obscurs. La correction ne concerne pas uniquement l'orthographe, elle peut aider à améliorer la syntaxe, la précision des formulations et la continuité du raisonnement. De même, le formatage organise l'expérience de lecture grâce aux titres, aux paragraphes, aux listes et aux espaces. Il doit servir la compréhension plutôt que produire un effet décoratif. La couverture représente quant à elle le premier signal adressé au lecteur potentiel. Elle doit communiquer le genre, le positionnement et le niveau de sérieux du livre sans promettre autre chose que son contenu. En intégrant ces dimensions au parcours d'auteur, Meilichen souligne que la publication relève aussi d'un travail éditorial. Cette distinction aide à éviter l'idée selon laquelle un premier manuscrit finalisé serait automatiquement prêt à être diffusé. En dernier lieu, faire de la promotion une continuité du travail éditorial. La promotion forme le dernier grand volet du livre, avec des pistes telles que le plan marketing, les réseaux sociaux, les collaborations avec blogueurs ou influenceurs, les dédicaces et les foires du livre. Le principe sous-jacent est simple, un livre disponible ne devient pas nécessairement visible. La promotion doit donc être pensée en fonction du lectorat visé et commencée avant ou autour de la parution, plutôt que comme une action improvisée après la mise en vente. Un plan marketing permet de fixer des objectifs réalistes, de choisir des canaux adaptés et de maintenir une communication régulière. Les réseaux sociaux peuvent rendre le processus de création, les idées du livre et le profil de l'auteur plus accessibles, mais leur efficacité dépend de la cohérence entre contenu partagé et public recherché. Les partenariats ou les événements apportent une autre forme de visibilité, souvent fondée sur la recommandation, la rencontre directe ou la présence dans des communautés déjà constituées. Le livre semble ainsi défendre une approche plurielle de la diffusion, qui ne dépend pas uniquement d'un algorithme ou d'une campagne ponctuelle. Cette partie est particulièrement pertinente pour les auteurs professionnels, car leur livre peut être intégré à un ensemble plus large de conférences, formations, accompagnements ou communautés. La prudence reste nécessaire, aucune méthode promotionnelle ne garantit les ventes. En revanche, une stratégie cohérente améliore les possibilités de découverte et relie plus clairement le livre au lecteur susceptible d'en tirer profit. En conclusion, le pouvoir d'un livre s'adresse en priorité aux personnes qui veulent transformer un savoir, une méthode ou une expérience professionnelle en ouvrage publié. Il conviendra donc particulièrement aux indépendants, coachs, formateurs, dirigeants, intervenants et praticiens qui cherchent un cadre pour passer de l'intention à une publication concrète. Il peut aussi aider tout auteur débutant qui souhaite comprendre les principales étapes du parcours sans séparer artificiellement l'écriture, la fabrication et la mise en marché. Son bénéfice pratique tient à sa couverture large. Le lecteur est invité à envisager le sujet, le plan, le brouillon, la révision, les choix éditoriaux, la conception et la promotion comme des éléments interdépendants. Cette vision limite le risque de concentrer tous les efforts sur le manuscrit, tout en négligeant sa préparation éditoriale ou sa diffusion. Par rapport à des manuels centrés uniquement sur le style littéraire, l'ouvrage se distingue par son orientation vers le livre professionnel et par son attention à l'auto-édition comme levier d'autonomie. Par rapport à des guides de marketing isolés, il replace la visibilité dans un processus qui commence par la définition d'une promesse claire et d'un contenu utile. Les lecteurs en quête d'analyse approfondie sur le droit éditorial, la négociation contractuelle ou les techniques littéraires très avancées pourront avoir besoin de ressources complémentaires. Toutefois, comme introduction structurée et orientée vers l'action, le livre offre un repère pertinent pour comprendre les décisions essentielles et organiser un premier projet d'auteur de manière plus méthodique. Si vous souhaitez soutenir Meilichen, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.